Merci à Andreas et à Pascal. Et oui, merci de nous rappeler la reconnaissance et le jour de la récolte. C'est une belle fête. Voilà. Maintenant, nous allons inviter Judith Gaidian. Est-ce qu'Evelyne vient avec ou parle après? D'accord. Alors venez. C'est donc, le groupe Mission a donc voulu inviter Mercy Ships pour nous parler de leur travail. Je vous laisse vous présenter vous-même en tant que personne. Et... Okay.
Merci. Bonjour, on a juste une vidéo et après je vais venir me présenter alors. Alors, vous m'entendez? Ça va? Ok. Donc, je m'appelle Judith Gaidian. Ça fait 18 ans que je suis en Suisse. Je suis éthiopienne d'origine. Donc, je vais commencer un peu par dire qui je suis. Comme ça, on va faire le lien avec Mercy Ships. Et Donc maintenant, je m'occupe chez Mercy Ships tout les relations avec des églises et de service clubs comme le Rotary et tout ça. Et comme vous avez vu, comment est-ce que je suis arrivée chez Mercy Ships, j'étais en train, je travaillais pendant la journée. J'étais une femme divorcée avec un enfant. Je travaillais à 100%. Je faisais les études le soir. Parce que quand j'ai quitté mon pays, tout ce que je voulais, c'était de faire mes études, au moins jusqu'au master. Donc, c'était vraiment le but, ce que je voulais. Je pensais ce que j'avais besoin dans la vie. Donc, en finissant mon master, je cherchais une salle où je vais faire une fête avec les amis. Et donc, en cherchant, on m'a dit, chez Mercy Ships, dans cette bâtiment-là, peut-être il y a une salle. Et je suis allée sur le net pour voir... ce que c'est, je ne savais même pas ce que c'était. Et j'étais bouleversée complètement en regardant le site. Je pleurais. Et je me suis dit, mais c'est vrai, ils font quelque chose qui a du sens. Et je me reconnais quand je vois les gens. Je dis, ça c'est... Je vois tous les gens qui sont les Européens, les Américains, qui sont mis ensemble pour aider mes frères et mes sœurs. C'est vraiment, je l'ai vu comme ça. Et moi, je vivais une vie, je suis arrivée ici tout seule. Pendant 9 ans, c'était difficile, très très difficile d'être intégrée ici et de me lancer aussi dans mes études et tout ça. Mais à un moment donné, j'ai vraiment trouvé Jésus qui a transformé ma vie et j'ai vécu 3 ans incroyable. Donc je sais aussi là que Jésus change de vie. Et j'ai reçu, dans ces 3 ans, j'ai reçu 80% de ce que j'espérais avoir jusqu'à ma retraite. 80%. Donc il me reste 20. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, mais c'est vrai. Là, je vois, j'ai 80%. Mais je ne suis pas aussi satisfaite. Je me sentais plutôt, c'est ça la vie, quoi. C'est que ça que je vais faire dans la vie. Donc là, je trouvais que les gens qui donnaient l'amour aux autres, et pendant ces 9 ans où je sentais seule, ce qui était important pour moi, c'est quelqu'un qui me regardait, qui me reconnaissait, que je n'étais pas dans le besoin précaire comme ça, je n'étais pas dans la souffrance. Et je vous dis comme ça m'a fait du bien ce matin de voir Evelyne, qui est là. Aujourd'hui, je suis là, je sais pourquoi je suis là, je suis une femme heureuse. Mais même là, on a besoin de quelqu'un. Le Seigneur nous a fait d'une manière... quand on donne l'amour les uns les autres pour qu'on soit les uns les autres. Donc ça m'a beaucoup touchée. Donc je suis allée, j'ai fait ma fête. Je l'ai fait faire une présentation pour 60 personnes que j'avais invitées. Et après, j'ai donné ma démission à mon travail. Je travaillais dans une entreprise pharmaceutique, je donnais. Et après, je dis, mais Seigneur, maintenant je fais quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Et le Seigneur m'a mis en tête que je dois contacter Mercy Ships. Et je contactais Mercy Ships. Et je parlais avec l'executive director Bryce, je ne sais pas si vous connaissez, et il a dit, mais c'est incroyable, on priait que le Seigneur nous envoie quelqu'un. Donc c'est comme ça que je suis entrée chez Mercy Ships et je commençais à travailler avec eux. Et aujourd'hui, je suis contente de pouvoir contribuer quelque chose pour ces pauvres. Donc Mercy Ships, il a 15 bureaux partout dans le monde où il y a des employés. On cherche des bénévoles, on cherche de ressources, ça peut être des médicaments, ça peut être l'argent, pour pouvoir aller, comme vous avez vu, en Afrique. La plupart du temps, on va à l'ouest de l'Afrique pour opérer les gens qui sont avec les tumeurs, les femmes après l'accouchement qui sont de VVF, les fistules, et plusieurs autres spécialités, comme aussi on fait l'orthopédie, les yeux et tout ça. Et c'est vrai, j'ai réfléchi parce qu'on m'avait demandé aussi de regarder un peu en lien avec la Bible, pourquoi est-ce qu'on sert, pourquoi est-ce qu'on est là. Moi, je vous ai dit mon parcours, pourquoi est-ce que je suis arrivée là aujourd'hui, parce que ma vie avait plus de sens juste de consommer, d'avoir un bel salaire, je vis en vacances, je vivais pour moi. Et à un moment donné, on reçoit beaucoup d'amour, surtout quand on connaît le Seigneur, et on voit cet amour, il nous transforme, Et on voit les autres qui souffrent et qui ont besoin d'un regard. Et la plupart de nos patients chez Mercy Ship, c'est le cas avec le tumeur aussi grand comme ça. Parce que les gens là-bas, ils pensent c'est peut-être ils sont maudits, ils sont rejetés. Donc il n'y a personne qui va vers eux, même la famille les rejette. Et ces gens, ils ont besoin d'un regard, quelqu'un qui leur dit « Dieu vous aime ». Parce que ça fait un déclic aussi, ça donne envie de vivre. Et ça a donné un sens pour ma vie. Finalement, c'est peut-être égoïstement que je suis venue à faire ça. Parce que ça me fait beaucoup de bien à moi et aussi de voir ces changements-là. Et au travail, quand on est découragé, on est fatigué, c'est vite vu, on va aller regarder une histoire de passion, on se remet en place. Donc on a trouvé la motivation pourquoi on se lève le matin. Et en essayant de regarder un peu sur Internet, j'ai googlé pour voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au service aux pauvres. Et de premier coup, j'ai eu 51 versets qui sont venus, donc j'ai pris quelques-unes. Donc dans le Proverbe 19-17, c'est marqué « C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Donc ça peut être ça qui nous intéresse parce que on peut avoir n'importe quelle motivation pour commencer à aller vers l'autre, en fait. Et le Proverbe 14-31 dit « Opprimer le pauvre, c'est l'outrage à celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. » Donc, honorer Dieu. Et quelquefois, on fait les choses pour honorer Dieu. Parce que surtout quand on connaît l'amour que Dieu a pour soi. Moi, quand j'ai vu Dieu, à quel point il m'aimait, c'est là qu'on comprend que Dieu aime aussi l'autre. Il est aussi mort pour lui, pour elle, pour comme il m'aime moi. Moi, ces 3 ans, ce que j'ai vécu, c'était vraiment phénoménal, vraiment incroyable. J'étais juste, j'ai donné ma vie. J'étais chrétien avant, catholique. J'ai grandi dans l'église, j'étais dans la louange. Mais je n'avais pas cette relation personnelle avec Jésus. Et je ne connaissais pas. À un moment donné, je croyais qu'il ne m'aimait pas. Il ne m'aimait pas du tout. Il ne veut pas de moi dans son royaume. Mais le moment où j'ai fait ce déclic et je dis, s'il m'aime, je vais lui donner la chance pendant 3 mois. Il me montre, il me parle. Il a été fidèle dans ma vie à moi. Donc, après, une fois goûté de cet amour, on a besoin plus, on prend plus. Le plus qu'on prend, ce que je vois, on comprend aussi comment il voit les autres. Et ça commence à amener un changement. Et aussi, on a envie, quand on aime, quand on est amoureux, on aimerait plaire à celui qu'on aime. Et on aimerait aussi lui plaire à Dieu. Et là, on va commencer à aimer ce qu'il aime. C'est aussi comme ça que j'ai reçu l'amour pour l'Israël. J'ai entendu une prière pour l'Israël aussi. Donc, voilà. Et aussi, le message de Jean, le premier message, chapitre 3, 17 et 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est vraiment ça. À un moment donné, quand on a cet amour de Dieu, ça devient automatique d'aimer et de vouloir aider l'autre, ceux qui souffrent. Et c'est vrai, on n'a pas beaucoup à faire. On doit juste montrer l'amour pour la personne, surtout les gens qui sont dans la souffrance, comme ceux qu'on voit chez Mercy Ships, qui sont rejetés. Rien que dès qu'ils sentent cet amour, les gens qui le prennent dans les bras, ça fait le déclic et l'envie de vivre. En fait, ça revient. Donc, le numéro 18 dit « Petit enfant, néanmoins, pas en parole, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Donc, il y a plein de versets comme ça où Jésus parle de service au prochain. Il y a aussi Matthieu 25, 31, 40 où il dit, voilà, les anges, ils vont venir séparer les boucs avec les brebis, ils vont mettre à droite et à gauche. Et après, il dit, le roi dira à celui qui sont à sa droite, venez, vous êtes qui vous êtes bénis de mon Père, prenez possession de mon royaume, qui vous avez été préparé des fondations du monde, parce que j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Donc, on connaît très bien ces passages dans l'Église. Et après, quand il lui demandait, mais quand est-ce qu'on t'a donné à manger, il dit, et le roi leur répondra, je vous dis en vérité, tous les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ceux le plus petit de mes frères, c'est en moi que vous avez fait. Donc, encore une fois, dans ces passages, on voit que Jésus, il prend vraiment ça à cœur. Et quand on fait à quelqu'un rejeter, à quelqu'un qui a besoin d'un coup d'œil, ça peut être aussi les pasteurs, les chrétiens qui sont rejetés, qui ont besoin que quelqu'un d'autre dans le peuple de Dieu les voit, prie pour eux. Ça va droit au cœur de Jésus, qui est la raison pour laquelle que on vit notre vie quand on est chrétien, finalement. Donc, c'est vrai. On voit aussi dans le bénévole qui vient travailler sur le bateau, parce que la plupart des gens qui viennent travailler sur le bateau, c'est des bénévoles. Ils payent leur séjour, ils payent leur nourriture, ils payent leur vol, le billet d'avion, le transport, tout. Et ils donnent de leur temps. La plupart, ils travaillent pendant leurs vacances. Donc, au lieu d'aller à la plage, il vient travailler, enchaîner des opérations sur les opérations, et après, il part. Et je suis contente aujourd'hui d'avoir Evelyne avec moi, parce qu'elle était dans leurs chaussures, donc elle était bénévole, qui était venue sur le bateau. Elle va vous partager ce qui présente à elle quand elle était allée sur le bateau. Et il y a ceux qui sont venus juste par obéissance, parce qu'ils connaissent les paroles de Dieu, ils disent qu'il faut aider, donc ils viennent juste voir, faire une expérience. Il y a les gens qui viennent pour donner sens à leur vie, comme moi. Finalement, ma vie n'avait plus de sens. J'avais tout, mais je ne voulais pas vivre que pour ça et mourir, et c'est fini, quoi. Et surtout, quand on va au ciel, on ne va pas faire toutes ces choses qu'on peut faire ici. Et aussi certains qu'ils ont fait comme thérapie, parce qu'ils divorçaient, ils étaient même pas chrétiens, ils sont allés sur le bateau et ils ont trouvé un sens dans leur vie, ils ont rencontré Dieu, ils ont vu quelque chose de réel, parce que quand on vit dans le pays comme ça, comme en Suisse, moi quand je suis arrivée, je vous dis, je voyais pas les chrétiens où ils étaient. Je voyais des grandes églises, je rentre, il n'y a personne. Donc, c'est très différent par rapport à ce qu'on vit en Éthiopie. Même les orthodoxes, on voit beaucoup de gens qui vont à l'église. Ici, on ne voit pas, on est très cachés, très, très cachés en Suisse. Donc, du coup, y a les gens qui sont allés sur le bateau, qui ont trouvé Dieu sur le bateau, parce qu'il y a vraiment, ça se vit. Elle va vous expliquer vraiment ouvertement notre identité chrétienne sur l'Africain. Merci. Donc, voilà, et il y a aussi, on voit comme Dr Gary, qui est 27 ans, qui est sur le bateau, il vit là-bas, il s'est marié sur le bateau, il a eu des enfants sur le bateau, les enfants sont élevés et éduqués sur le bateau. Donc, pour quelqu'un comme lui, il est où? Il est, c'est pas donné un sens, il est le chirurgien le plus doué sur le maxillofacial. Il peut faire beaucoup d'argent s'il est... sur la terre aux États-Unis en train de faire son travail. Mais à un moment donné, quand on grandit dans l'amour de Dieu, ça arrive, ça va être juste la louange pour Dieu. On vit, on le loue avec ce qu'on fait. Donc c'est ce que j'aimerais faire, moi. C'est ma vie soit pas le travail, pas le service, mais une louange à Dieu. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais vous partager avec les versets de Bible. Et maintenant, j'aimerais que vous voyez, ça c'est de côté des gens qui travaillent, qui s'engagent, mais on va voir comment est-ce qu'il vit les passions. Les passions, comment est-ce qu'il nous reçoit. Pas celui-là, Sambani. Pas celui-là. Sambani. C'est une histoire d'un patient qu'on avait reçu dans notre mission à Madagascar l'année passée. En fait. Après, ça sera Evelyne qui va prendre les micros.
En fait, je suis infirmière diplômée de l'école de la Source à Lausanne. Donc, j'ai été diplômée en 2010. Et puis, donc, déjà durant ma formation, j'avais à cœur de pouvoir partir à l'étranger. Donc, j'ai été au Burkina Faso faire un stage dans un centre de renutrition infantile. Donc, j'étais en contact avec des enfants vraiment très sévèrement malnutris. Et puis, c'est vrai que, enfin, déjà d'avant, je sentais cet appel sur ma vie par rapport à l'humanitaire. Et du coup, d'une fois que j'ai été diplômée, que j'ai travaillé pendant 2-3 ans ici, pas mal dans des services de chirurgie, j'ai eu le privilège de pouvoir partir donc avec Mercy Ship sur le bateau qui était en fait au début de l'année 2013 en Guinée-Conakry. Donc c'était avant qu'il y ait l'épidémie d'Ebola qui se déclenche. C'est pour ça aussi que Mercy Ship est parti sur Madagascar après, parce que c'est difficile avec ce qui s'est passé par rapport à Ebola de rester sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà le bateau qui était à Conakry en Guinée. Et du coup j'ai fait 2 mois. J'aurais bien fait plus, mais après j'ai été faire un post-grad en fait en médecine tropicale en Belgique. Donc j'ai passé de 40 degrés en Guinée-Conakry le vendredi à -10 le lundi matin en Belgique. C'était assez drôle. Et du coup ma vie à bord, je vais vous partager deux trois aspects pratiques, spirituels de ce que j'ai pu vivre à bord. Donc j'ai pas mal travaillé au début de mon temps à bord avec des femmes, comme elle en a parlé, Yodis, c'est des femmes qui ont des fistules vésico-vaginales. Donc en fait c'est suite à des accouchements traumatiques, c'est des femmes qui vont accoucher souvent dans la brousse sans l'aide de professionnels de la santé, de sages-femmes agréées, etc. Et puis en fait le travail est bloqué, donc le nouveau-né ne peut pas sortir, et du coup cette femme elle peut essayer d'accoucher pendant une journée, 2 journées, j'ai entendu jusqu'à 12 jours. Donc pour pouvoir expulser le bébé qui bien sûr va être mort à plus de 99% des cas, et donc la femme se retrouve avec des tissus au niveau vésical nécrosés qui font un orifice avec le vagin, et du coup elles ont une incontinence urinaire constante qui peut aussi aller jusqu'au niveau des selles, donc elles peuvent avoir une incontinence urinaire et fécale. Et puis dans des milieux comme en Afrique, c'est des femmes qui vont souffrir d'exclusion, de rejet. Elles vont être expulsées de leur maison parce qu'elles perdent de l'urine en continu. Donc elles vont être jetées par leur mari. Elles vont plus pouvoir faire la cuisine, ce qui est pour une femme africaine la pire des hontes et des rejets. Et donc c'est des femmes souvent qui vont se retrouver dans la rue, qui vont mendier, qui vont se prostituer, qui survivotent comme ça, et puis qui arrivent donc sur le bateau avec un nouvel espoir de guérison, et puis aussi de ce qui est très beau, c'est quand on les voit ensemble, ces femmes, c'est que finalement elles comprennent qu'elles sont pas toutes seules, parce que souvent ce qu'elles croient, c'est que en étant dans leur brousse, etc., c'est qu'elles sont les seules à vivre ça, et puis qu'effectivement le mal est sur leur vie, etc. Et donc c'est vraiment un travail aussi qu'on fait avec Mercy Ship de leur réintégrer dans leur vie de femme et dans leur dignité. Et ça c'est une des valeurs de Mercy Ship, c'est vraiment la dignité. Et puis le concept qui m'a vraiment plu et qui me plaît toujours autant de Don Stephan, qui est le fondateur, en fait, c'est qu'on peut pas changer le monde entier. Donc effectivement, on n'est pas Dieu, donc on va pas pouvoir changer le monde entier avec nos 2 petites épaules, mais on peut changer le monde entier d'une personne à la fois. Et ça, c'est vraiment ce concept particulier à Mercy Ship, de se dire que une vie à la fois, on change le monde entier d'une personne. Et donc voilà, beaucoup travaillé avec ces femmes qui m'ont vraiment émue. Des femmes, des petits bouts de femmes qui ont 14, 15 ans. Toi, t'en as 25. Et puis, tu te dis, c'est déjà son premier, deuxième accouchement. Elles arrivent à cette souffrance d'avoir enterré leur nouveau-né dans la brousse avant de retourner à la maison pour essayer de faire la cuisine au mari qui va les rejeter, etc. Et puis, qui m'ont vraiment surprise dans leur dans leur courage, dans leur force de vie. Donc vraiment des moments particuliers avec elle, et ça c'est quelque chose sur Mercy Ship. C'est vrai que ben autant on dit qu'on part pour donner, puis moi j'ai toujours eu cette sensation justement de recevoir deux fois plus, en fait, d'être tellement remplie beaucoup plus que je pouvais donner. Enfin, j'ai eu des cadeaux magnifiques dans le sens pas matériel du terme, mais notamment ça faisait une dizaine de jours que j'étais à bord et j'avais mes 25 ans. Donc en fait, bah, mes collègues internationaux et tout ont appris que j'avais mes 25 ans et m'ont organisé une petite surprise parce que je travaillais ce jour-là, à me faire un chapeau, des quatrinettes là, des 25 ans, etc. Et en fait, donc les patientes aussi ont compris forcément que j'avais mon anniversaire, et une des patientes qui s'appelait Nana m'a dit bah, « moi aussi j'ai un cadeau pour toi ». Et je me suis dit « mais qu'est-ce qu'elle va bien me concocter et tout ?» Et donc dans cette salle où normalement il y a 20 femmes qui parlent, enfin c'est on dirait un peu un poulailler des moments tellement ça parle fort, etc. Elles se sont toutes arrêtées de parler, donc grand moment de silence comme ça, ça faisait très solennel, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et elle m'a dit « Evelyne, je sens que tu as une destinée particulière pour l'Afrique, donc je t'offre un nom africain qui est donc Fatoumata, Fatoumata de Fatim, la destinée ». Et toutes les femmes après ça continuaient à m'appeler Fatou, donc quand il y en avait qui partaient et d'autres qui revenaient, elles disaient « ça si jamais c'est Fatou ». Donc je me suis plus appelée Evelyne, je me suis appelée Fatou pour le restant de mon séjour à bord, et c'est un nom finalement qui m'a accompagnée dans les années à venir, parce qu'après je suis repartie sur deux missions au Sud-Soudan, mais avec MEDER. Et en fait, souvent je disais, bah, je m'appelle Fatou, et du coup, les patients m'appelaient aussi Fatou au Sud-Soudan. Voilà, donc ça c'était vraiment un moment particulier pour moi, et je pense qu'il illustre bien le fait que c'est vrai que, bah voilà, dans notre esprit chrétien, etc., on part beaucoup pour donner, mais finalement c'est vrai que quand on donne, quand on s'oublie un peu, ce qui était dans un des versets d'une des chansons, ben finalement c'est ça, on est vraiment très rempli, et ça a été deux mois vraiment d'une intensité particulière au niveau des relations humaines, au niveau professionnel, au niveau du contact avec ses patients, de la vie qu'on peut avoir à bord du navire, mais aussi à l'intérieur des terres, et vraiment riche en expérience. Alors j'ai deux trois photos vraiment très pratiques de ma vie à bord du bateau, mais en fait j'ai été faire des présentations pour Mercy Ship pour des jeunes de 18 à 22 ans, donc c'était à l'office du Grand Saint-Bernard, ils faisaient une formation humaine, et puis on a été se présenter, etc. Donc c'est assez dynamique comme ça pour motiver ces jeunes aussi à s'engager. Donc avec le côté fun de vivre dans une cabine, on était 6 infirmières en fait à vivre dans une cabine, donc il n'y a même pas de hublot, etc. Là on voit, c'est juste ma petite armoire là à côté, donc c'est à peu près tout l'espace qu'on a, puis à côté plus loin là il y a les deux couchettes, puis on a deux autres là, deux autres vraiment au fond. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a cette interculturalité. Enfin, il y a des Européens, il y a des Américains, il y a des British, il y a il y a vraiment le monde anglophone sous toutes ses coutures. Parce que c'est vrai qu'à bord, la langue parlée pendant nos heures de travail, c'est l'anglais. Après, ça nous interdit pas de parler le français, le hollandais. Enfin, on entend un peu de tout pendant les heures de repos. Donc ça, c'était justement avec mes 5 autres compagnes de chambre, mes cabin mates. Donc il y avait Ellery, c'est une British, et puis deux Allemandes ici, une Hollandaise et puis une Américaine. Donc très fun aussi pour améliorer son anglais. J'ai eu des très bons souvenirs par rapport à ça. Notamment une fois je voulais dire à un de mes collègues africains qui était des day workers, donc ils viennent en fait la journée nous aider à faire des traductions, notamment en Guinée il y a le Soussou, le Malinké, le Fula, c'est les trois dialectes les plus parlés qu'aucun des internationaux ne parle véritablement, Du coup, il y a des day workers qui vont venir nous aider dans les différentes salles d'hospitalisation pour ces traductions. Puis je voulais dire à un qu'il avait fait a job that was awesome, donc c'était génial. Et j'ai dit handsome, et handsome, c'est en gros dire à un homme qu'il est séduisant. Il était très enchanté, sauf que moi, après, ma collègue, là, elle m'a expliqué pendant un quart d'heure la différence de prononciation entre les deux. Donc très très bien aussi pour improve your English level. Là, ouais, on s'était acheté des pagnes africains au marché de Conakry, des petites sorties, donc vraiment très interculturelles avec des Guinéens, vraiment des purs locaux et tout. Ça, c'était une Suissesse et une Française avec qui je suis toujours en contact. Voilà, donc dans les cales du bateau, le fameux tressage, très mauvais pour les cheveux européens, je l'ai fait 3-4 fois, je pense qu'il faudrait éviter que je recommence, mais c'est aussi super pour partager des moments avec la population locale. Et puis voilà, ça c'était la Swiss Team à bord quand on était en 2013. Et puis la fameuse journée de mes 25 ans avec cette belle surprise de mon prénom africain. Et puis des belles amitiés aussi qui se nouent, alors autant avec des collègues africains qu'avec des collègues internationaux. Là, il y a la petite Chrissy qui était une de mes collègues, ça a été mon orientation nurse pendant que j'étais mes premiers horaires sur le bateau. C'est une londonienne et je vais la voir la semaine prochaine chez elle, comme j'ai quelques jours de congé. Donc c'est aussi des amitiés qui se marque dans le temps parce qu'on vit des choses assez fortes à bord, etc. Et puis c'est vrai qu'on peut bien partager aussi les difficultés aussi qu'on peut rencontrer en tant que soignant, en tant que personne, par rapport aux souffrances que vivent nos patients. Donc voilà. Et puis donc là, c'est ma fameuse petite nana qui m'a offert ce prénom. Donc c'était durant ma journée de mes 25 ans. Voilà, bon, on avait fait un petit délire pirate sur le bateau avec nos gardes qui sont népalais. Ça, c'était avec... j'ai eu la chance de pouvoir faire aussi des traductions français-anglais, donc d'aller à l'intérieur des terres, enfin à Conakry, la capitale. Et puis, en fait, Sean, qui était l'un des médecins anesthésistes à bord de l'Africa Mercy, on avait un partenariat de donation en fait de machines d'anesthésie pour les blocs opératoires de Conakry, mais du coup avec toute la notion de comment rendre ça, que ça soit utile et praticable pour l'Afrique, parce que certaines fois on envoie du matériel qui vont servir à rien parce que soit c'est trop complexe, trop sophistiqué, puis dès qu'il y a un problème, on peut pas le réparer, donc ça prend la poussière et puis ça bouffe de l'espace dans les blocs opératoires africains. Donc là, c'était vraiment d'aller suivre des interventions de l'autre médecin anesthésiste, chef de bloc, etc., guinéen, et de s'assurer en fait après qu'ils puissent utiliser ces machines de façon efficiente. Donc c'était très intéressant aussi. Le marché, faire des visites des écoles avec des petits loulous très mignons. Et puis le Deck 7, c'est donc ça, c'est un de nos patients Alpha qui souffrait d'un OMA. Et en fait, on a aussi très à cœur de qu'il puisse avoir du temps, enfin à l'extérieur. Ça reste sur le bateau, mais c'est un des ponts de notre bateau où souvent à 3h30, 4h l'après-midi, on sort un moment avec les patients qui peuvent sortir, en fait, d'un point de vue médical, pour se récréer un peu, jouer aux cartes, etc. Qui puisse prendre un peu l'air, parce que c'est vrai que donc il y a cinq blocs opératoires et puis plusieurs salles en fait d'hospitalisation, ça fait environ 72 lits, quelque chose comme ça, donc quelques lits de soins intensifs et tout ça. Donc c'est pas toujours possible que les patients ils sortent l'après-midi, mais si d'un point de vue médical c'est ok, on les prend un petit moment sur un de ces ponts pour qu'ils puissent s'aérer un petit peu. Ça, c'est à l'intérieur d'une des salles où on peut aussi, quand il y a des petits moments un peu plus calmes, jouer avec eux, etc., avoir ces autres aspects-là. Et puis voilà, c'est vrai que le fin mot de l'histoire, c'est toujours ça, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre ces soignants, ces patients. Donc, ouais, vraiment... beaucoup d'amour entre intergénérationnel aussi. Et voilà. Merci Chip en quelques mots. Et je pense que c'est ça, effectivement, qu'aimer, c'est comprendre et sentir que l'autre est différent, mais c'est pas parce qu'il est différent qu'il est, il est moins bien ou mieux, qu'on a la chance d'avoir un Dieu qui a créé un monde très diversifié, mais où on peut se rencontrer dans nos différences et puis ériger des ponts de communication plutôt que des murs. Et c'est vrai qu'on parlait, on peut être sensible à aider l'autre, alors on peut aller à l'autre bout de la terre pour aider les plus pauvres, les plus misérables, etc. Après, je sais aussi, enfin, j'ai été très loin pour voir finalement ces personnes qui vivent dans la pauvreté, etc. J'ai été très loin en termes de kilométrage, etc. Mais maintenant, je pense qu'on va dans des problématiques où il y a assez de réfugiés politiques, climatiques, des migrants, etc. qui vont arriver chez nous et qu'on puisse justement être acteur d'un monde de changement ici. Et puis qu'il n'y a pas, forcément besoin d'aller très très loin. On peut très bien chacun ici. Dans son travail et puis dans l'autre qu'on rencontre au quotidien, être acteur de cette différence. Voilà, merci. Ouais, donc ceux qui ne comprennent pas le français, c'est une chirurgie qui peut être facilement soignée, effectivement. Donc, il a été à la maison avec cette tumeur. Il voulait qu'on l'enlève. Il aurait pu mourir durant cette intervention, mais il en était conscient. Et donc là, ils expliquent que Mercy Chip, tous les soins, en fait, sont gratuits. Qui était vraiment étonné en fait de voir le changement. Qu'avec sa main, il pouvait aller aussi près de son visage. Que chaque être humain a le droit d'être traité comme un être humain et d'avoir une place à cette table dans la dignité de l'être humain. Pour réintégrer la condition humaine, en fait. Merci de m'avoir sauvé.
Merci.